Le feu crépite dans la cheminée. Maman monstre regarde le soleil se lever et les petits monstres terminer de se disputer en dérangeant leur chambre. Elle les regarde en souriant, mettre couette et coussin sans dessus-dessous et se faire une forteresse bien moelleuse. Quand ils ont fini, elle prend une grande respiration. Les monstres s'arrêtent directement et se couchent dans ses bras, bien calés, les yeux grands ouverts et totalement silencieux. Ils attendent que maman monstre raconte son histoire du matin.
« Alors les tout-petits, vous vous souvenez de l'histoire de cousin Califourchu ? De comment il est devenu le monstre d'Elisabeth et de son frère ?»«
Oh oui, maman ! Mais moi, quand je serai grand, je veux être un monstre de placard ! Un monstre très très méchant ! Un qui fait rien qu'à coincer les doigts des gens passage dans les portes !»«
Moi, je veux pas. Moi, je veux devenir une ogresse et manger tout plein de petits enfants. Et les ça. C'est très très bon, les ça. Un jour, je vous raconterai peut-être l'histoire d'un bon ami à moi, tout aussi poilu que vous et qui s'appelait Alf. Lui aussi, il adorait les chats, surtout en sandwich. Mais non. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sigismond le poltron.
C'est quoi un poltron, maman ?
Un poltron, mon chéri ? C'est quelqu'un qui n'est pas très courageux, qui a souvent peur et qui parfois pleure tellement il a peur.
Mais c'est nul ça ! Moi, je suis super courageux ! Et les trouillards, hein, moi, je leur mets mon poing sur le museau !
Calme-toi, petit, et écoute. On peut ressembler à un poltron, mais caché tout en dessous de la peur, on peut trouver le courage d'être meilleur.
C'était il y a bien longtemps. Le soleil brillait dans le ciel, les oiseaux chantaient. Il y avait un lac, un grand lac. Et tout autour de ce lac, une forêt, avec des grands, des immenses arbres. Les branches se balançaient doucement dans le vent. Et tout au loin, là-bas, il y avait une montagne. Énorme. Au sommet, ça brillait très fort. Il y avait encore de la neige. Bien caché dans sa tanière, au cœur de la montagne, une dragonne veille sur ses œufs. Elle est plus grande qu'un camion, recouverte d'écailles vertes avec des reflets d'argent. Ses yeux rouges sont pour le moment fermés. De la fumée sort de ses narines. Et ses lèvres retroussées montrent des dents blanches et brillantes, pointues comme des poignards. Ses cornes noires montent et descendent lentement au rythme de sa respiration. Ses pattes ont des griffes énormes et coupantes. Ses ailes noires sont repliées, sa queue enroulée autour de son corps. Elle dort. Sous elle, réchauffée par son corps, se trouvent des œufs. Les œufs, jusque-là immobiles, commencent un peu à bouger. Les coquilles se craquellent. Des petites têtes de dragon apparaissent. Un dragonnet doré, un noir, un rouge, un bleu. Ça piaille et ça ouvre grand les yeux sur leur nouvelle vie. Le dernier œuf, un peu plus petit que les autres, reste immobile. Les yeux de la dragonne s'ouvrent en grand. Elle admire ses petits. Leur souffle de la fumée dessus pour les réchauffer. Ils sortent complètement de leurs œufs et commencent à se déplacer maladroitement autour d'elle. Ils tentent de se mettre sur leurs pattes. Ils tombent, ils réessayent, retombent. Puis doucement, ils parviennent à rester debout. Ils font quelques pas. D'abord maladroit, puis de plus en plus sûr. La maman les regarde, fière de ses petits. Elle leur donne à manger, un peu de viande qu'elle a gardée spécialement pour eux. Souffle encore quelques flammes pour être sûre qu'ils aient bien chaud. Repus, ils s'endorment autour d'elle. Elle soupire d'aise et les recouvre de ses ailes. Puis, son regard tombe sur le dernier œuf, toujours immobile, toujours intact. et toujours plus petit que les autres. Il est recouvert d'écailles ternes, pâle comme la lune, alors que tous les autres étaient brillants, comme des petits soleils. La dragonne le regarde et souffle doucement son feu sur l'œuf. Longtemps. Elle le regarde. Rien. Avec toute la patience et l'espoir d'une maman, elle continue. Et sous ses flammes, un petit bruit. Une fêlure. Et l'œuf se craquelle. Un tout petit dragon sort de cet œuf. Si ses frères et sœurs font déjà la taille d'un gros chat, lui, il ressemble plutôt à un chaton. Ses frères ont des écailles brillantes, solides, qui leur recouvrent tout le corps. Lui, il a quelques écailles seulement, et quelque chose d'autre. Il ressemble à... des poils? Des plumes? Pas quelque chose digne d'un vrai dragon, en tout cas. Et dans sa bouche, aucune trace des dents tranchantes de ses sœurs. Et puis surtout, contrairement au reste de sa fratrie qui aura ses ailes plus tard en grandissant, après quelques mues, lui, il a deux toutes petites ailes toutes riquiqui-ridicules derrière lui. Des ailes qui ne pourront jamais le porter. Et il est tout vert. Mais pas du beau vert émeraude de sa sœur, non. Plus un vert clair, comme de l'herbe en plein été. Et il a des touffes de poils jaunes qui sortent de ses oreilles et sur sa queue. Il sort de son œuf en reniflant avec curiosité autour de lui. Il s'éloigne un peu et dès qu'il voit ses frères et sœurs, il retourne se cacher en courant derrière la patte de sa maman. Le temps passe. Le petit dragonnet a un nom. Sigismond. Et si sa maman l'aime beaucoup et lui pardonne tout, son papa, lui, il trouve que c'est un poltron. Un dragonnet qui a peur de tout, même de son ombre. Alors Sigismond, il a aussi peur de son papa, de sa grosse voix, des grondements qui sortent de sa bouche quand il n'est pas content. Pourtant, il essaye de faire de son mieux. Il s'entraîne à gronder comme ses frères et sœurs, mais on dirait plus une petite souris qui couine qu'un dragon menaçant. Il court derrière les rats, mais il est tellement maladroit qu'il les rate à chaque fois. S'en mêle les pattes, glisse et tombe, le museau dans la poussière. Et le pire, c'est que dès que les rats sont en sécurité dans leur trou, les bestioles rigolent du pauvre dragon. Et c'est comme ça tous les jours. Le dragonnet a beau essayer de faire de son mieux, il reste maladroit et peureux. Un jour, le père appelle Sigismond. Il regarde le petit dragon tremblotant de bas en haut.
« Mon fils, il va falloir que tu partes, que tu parcours le monde et que tu deviennes un dragon courageux et fort. »
« Mais je veux pas y aller, moi. J'ai peur. Et puis comment je vais faire tout seul ? Non. Je veux rester avec vous. »
« Non. Si tu restes, tu ne deviendras jamais fort. Et tu n'apprendras rien. Va. Trouve-toi des amis pour t'aider. Et ne reviens que quand tu seras un vrai dragon. »«
Oh non, s'il te plaît, papa. Je veux rester. »
« Non. Tu partiras. Dès la nuit tombée. »
Sigismond tremble devant son papa. Il pleure un peu, puis il va chez sa maman, qui lui fait un gros câlin, l'entoure de son corps et de sa queue, et lui murmure à l'oreille. « Je suis sûre que tout ira très bien. Tu n'as juste pas encore trouvé ton courage. Va, aie confiance. Trouve-toi des amis, et ce sera un très beau voyage. » Sigismond renifle, se mouche. S'il avait été humain, il aurait certainement préparé un petit sac avec toutes ses affaires. Mais c'est un dragon. Du coup, il ne fait rien de tout cela et se tourne et se retourne entre les pattes de sa mère avant de s'allonger et de s'endormir tout contre elle. Quand la lune est haut dans le ciel, elle pousse Sigismond du museau et le réveille. Ils se font un dernier câlin. Toute la famille est devant la tanière pour regarder Sigismond partir. Dans le ciel, les étoiles brillent. Il fait noir, mais les yeux de dragon voient dans la nuit. Tout autour de lui, la forêt et ses mille bruits. Des bruits que Sigismond ne connaît pas, qu'il n'a jamais entendus. Des bêtes qui courent dans les fourrés. Des oiseaux de nuit qui chassent. Des insectes qui stridulent. Et de temps en temps, le cri d'une proie attrapée et mangée par plus fort qu'elle. Et Sigismond, au milieu de tout ça, tremblant de peur, mais avançant. Quand il a trop peur, il se cache dans un buisson. Quand il a faim, il mange ce qu'il trouve, des noisettes, des fruits. Parfois une souris, quand il a de la chance. Et il marche, dort dans les fourrés, boit dans les ruisseaux. Au bout de quelque temps, il croise un grand corbeau. Un corbeau aux plumes noires comme la nuit, aux ailes immenses, un bec crochu et des petits yeux noirs brillants d'intelligence.
Mais qu'avons-nous donc là? Mais oui, on dirait bien un bébé dragon. Mais un dragon sans écailles alors, et pas bien méchant. Peut-être que si je le mange...
Je m'appelle Sigismond et je suis pas un bébé. Va-t'en, mais sans va-t'en, c'est moi qui vais te manger.
Mais c'est qu'il a l'air bien sauvage, ce petit. Il me ferait presque peur.
Non mais va-t'en, va-t'en. T'en sais pas peur de toi, va-t'en.
Mais qu'est-ce qu'il est bruyant, ce petit-là. D'accord, c'est bon, arrête de pleurer, je ne vais pas te manger. Je m'appelle Carasso, mais tu peux m'appeler Cara. Maintenant, dis-moi ce qui t'amène par ici. Tu as l'air bien loin de chez toi et complètement perdu.
Et Sigismond lui raconte comment il est parti de chez lui, comment il a peur, mais aussi pourquoi il veut devenir un grand dragon courageux, pour ne plus jamais avoir peur. Il veut devenir celui qui fait peur. Et Carasso, le grand corbeau, secoue la tête, ses ailes. Il regarde avec un peu plus d'attention le jeune dragonnet.
Alors comme ça, tu veux devenir courageux ? Eh bien, écoute, ça tombe bien, gros. Je peux t'aider. Je suis sûre que tu as plein de courage au fond de toi, gros. Et je vais t'aider à le trouver. Bien sûr, ça ne sera pas facile, gros. Évidemment, tu risques d'avoir peur, parfois. Mais si tu me suis... Et que tu fais bien tout ce que je te dis, crois, tu deviendras un dragon extrêmement courageux, crois.
D'accord, je te promets.
Et Carasso lui apprend d'abord à faire des gros yeux. Et ça, c'est pas facile, parce que Sigismond, il a pas du tout une tête qui fait peur. On a plus envie de lui faire des gros câlins que de crier. Mais il s'entraîne à froncer les sourcils, à plisser les yeux. Au début, Carasso rigole beaucoup. Puis, quand il estime que Sigismond est prêt, il lui apprend à grogner, mais en ayant l'air menaçant, un peu comme un lion. Et de nouveau, Sigismond essaye de grogner. Et des sons sortent de sa gueule. D'abord, comme des petits cris de souris, puis de plus en plus fort. Bon, bien sûr, ça reste un petit grondement de dragonnet, mais c'est déjà mieux qu'au début. Quand Sigismond est prêt et maîtrise les gros yeux et le grondement, Carasso lui fait essayer sur d'autres que lui. D'abord sur de petits animaux, des sauterelles, des grenouilles, et ça fonctionne. Ce jour-là, Sigismond s'approche tout doucement en rampant dans l'herbe. Il arrive derrière un gros crapaud. Il retient sa respiration, se redresse et... Le crapaud sursaute et disparaît en sautant très vite dans la mare.
C'est un très bon début, Sigismond. Et tu n'as plus peur des crapauds, crois. C'est très bien. On va pouvoir passer à quelque chose de plus compliqué. Bien sûr, tu n'es pas très grand, crois, pour le moment. C'est normal, ça. Mais tant qu'on ne te voit pas, crois, on ne le sait pas. C'est pourquoi je vais t'apprendre à prendre, crois, une grosse voix. Et à te cacher dans l'ombre, crois. Pour donner l'impression que tu es bien plus grand et menaçant, crois que tu ne l'es en vérité.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Carasso apprit donc à Sigismond les arcanes de l'ombre. Comment se faire plus grand qu'il ne l'était réellement? Comment faire une grosse voix tonitruante, même si au fond de son cœur, il a très peur? Et le temps passa. Carasso devint un ami très cher au jeune dragon, qui grandit. Bon, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup d'écailles et un pelage soyeux. Mais les dents de Sigismond poussèrent et des griffes apparurent à ses pattes. Peu après, quand il grimpait dans les arbres, les troncs pliaient sous son poids. Il lui devint aussi impossible de se cacher derrière les rochers. Les années avaient passé et Sigismond était devenu un dragon adulte. Bon, il n'était pas grand comme un camion, il avait plutôt la taille d'un éléphant. Mais il était courageux et très intelligent. On venait le voir de très loin pour avoir ses conseils. Les animaux et les autres créatures de la forêt, en échange de ses sages paroles, lui apportaient des nouvelles des quatre coins du monde. C'est comme ça qu'il apprit que le lac, la montagne et toute sa famille étaient en danger. Les hommes étaient arrivés jusqu'à ce paradis perdu. S'y étaient installés, ils comptaient bien détruire les dragons qui décimaient leurs troupeaux. Alors vite, Sigismond et Carasso se mettent en route. Bien sûr, avec ses toutes petites ailes, Sigismond ne sait pas voler. Mais Carasso le corbeau, lui, il sait. Il faut faire vite. Alors le dragon se fabrique une sorte de planche à roulettes. Et vite, 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 il part vers la vallée qu'il a vue naître. Le corbeau sera ses yeux, là-haut dans le ciel pendant tout le voyage. Il court, il roule sans s'arrêter pendant des jours et des nuits. Arrive enfin chez sa famille. Entre lui et sa famille, une armée. De la forêt merveilleuse qu'il a vue naître, il ne reste plus grand-chose. Le lac, si bleu autrefois, est maintenant d'un gris terne. Et dans le ciel, ses parents, ses frères et ses sœurs crachent leur feu, défendent leur montagne contre ses envahisseurs, beaucoup trop nombreux pour eux. Sigismond réfléchit. Pour éviter les soldats, il plonge dans le lac, passe par un réseau de grottes pour retourner dans la tanière. Là, après le coucher du soleil, il retrouve sa famille. Il retire les flèches coincées dans leurs écailles. Et longtemps, il parle. De comment les hommes se sont installés dans la vallée, de tout ce que Sigismond a appris pendant son voyage. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps, mais ensemble, ils cherchent une solution. Et ils réfléchissent, longtemps. Sigismond a une idée. Et vu que les dragons sont trop grands et trop voyants, il demande à Carasso le corbeau de livrer son message. D'abord aux rats et aux souris, pour leur demander de ronger les cordes des arcs pour priver les humains de leurs armes. Ensuite, aux oiseaux. Il propose de les réunir tous et de les lancer sur les chevaux pour les effrayer. Le corbeau ricane et propose de crever au passage les yeux des hommes. Et surtout, à tous les animaux qu'il croisera, il devra leur demander de faire un maximum de bruit. Au cœur de la nuit la plus sombre, couverte de noirs nuages d'orage, le corbeau s'élance. Alors que le tonnerre gronde au loin dans le camp humain endormi, des tas de souris, de rats et d'autres petits animaux rongent consciencieusement les cordes des arcs, les ficelles, les flèches, tout ce qui leur tombe sous la dent. Dans le ciel, alors que l'aube tente de percer les nuages, une nuée d'oiseaux s'abat sur le camp. Les corbeaux en croissant, des aigles en trompettant, les faucons aux cris perçants lacèrent les tentes des hommes. Et toujours plus nombreux, ils s'attaquent à tous ceux qui sont sur le camp, à coups de griffes, de becs. Leurs ailes battent à toute vitesse. Bien sûr, les hommes tentent de prendre leurs armes, mais elles ont été rongées. Alors, juste avant la charge des sangliers, ils partent en courant, hurlant dans tous les sens, pendant que les dragons brûlent les derniers vestiges de leur camp. Ça a fait un beau feu de joie. Le temps a passé. Les hommes ne sont plus jamais revenus et sont devenus une légende dans ce coin du monde. Par contre, si tout le monde se souvient de Sigismond, des centaines d'années après toute cette histoire, et qu'on vient encore le voir pour lui poser des questions, personne ne se souvient qu'au début, c'était un vrai poltron.
Bien, maintenant au lit les tout petits. Le soleil est déjà bien levé et ce soir vous aurez du mal à vous réveiller.
Oh non maman, allez, encore une histoire, s'il te plaît.
Non, 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 au lit. Et demain, si vous n'êtes pas sage, je vous raconterai une autre histoire. Mais pourquoi pas une histoire qui fait peur. Thank you.